Vous écoutez
RMC. RMC Afterlife, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième nuit américaine, 2h, 5h du matin en direct. Nous sommes à New York, dans le New Jersey, avec une vue absolument magnifique sur la skyline. Et évidemment, on embrasse toutes les personnes qui se lèvent pour aller travailler, mais aussi les fêtards qui rentrent de soirée. Ils sont en pleine forme. Je ne sais pas s'ils ont fait la fête. Non, il y en a un qui est très studieux, c'est Walid Acherchour. Tout va bien, Walid?
Tout va bien, Karine. Salut, Karine. Salut, Maxime. Salut tout le monde. Salut la France du foot. Salut le. Le monde du foot.
Le monde du foot, ah aussi,
oui,
voilà.
Qui nous écoute et voilà. Qui sera branché sur YouTube jusqu'à la tombée de. Jusqu'à
petit matin.
Jusqu'au petit matin.
Là, il est 2h du matin et on est ensemble jusqu'à 5h du matin. Donc, j'ai parlé d'un homme studieux, ouais, forcément.
Que l'autre l'est pas.
Et bien sûr, ouais. À ma droite, j'ai un clubbeur qui a en plus le maillot des USA pour ceux qui nous regardent en vidéo. C'est Maxime Chano qui se prend pour un américain, mais qui est un petit peu américain, c'est vrai.
Bah, qui est quand même, oui, 50% américain. Par contre, le terme clubbeur, je suis pas sûr que. J'ai envie de m'associer à celui-là en tout cas.
Ouais, non.
Ouais. Ah non, je suis sérieux. Non, je travaille, je rentre à la maison.
Clubbeur, c'est-à-dire que tu t'étais.
Oh, je suis peut-être. J'aime les clubs. J'aime les clubs de foot.
Et on peut être clubbeur et sérieux, hein, tu sais.
Non, mais lui,
je suis
en fait,
sérieux, mais pas clubbeur.
Ouais. Il aime les clubs, il aime le foot et il aime tout ce qui est club de foot.
Bien sûr.
Ou mais club de golf.
Il a joué dans beaucoup de clubs de foot. Il n'a pas la carrière de Xavier Gravelaine, mais il y en a eu quand même beaucoup.
Oui, il aime les clubs med, voilà, il y a tout ce qui est vacances, voyages, etc.
Tout ce qui tourne autour des clubs, mais.
Exactement,
mais. Pas les clubs d'ensemble.
Non. Et il aime aussi les clubs sandwich quand il s'arrête, un bon petit club sandwich.
C'est vrai, hier, il mangeait un club sandwich.
Exactement, tout ce qui est club. Voilà, exactement.
Ah, mais moi, dès qu'il y a de la nourriture, je suis intéressé, tu sais, donc je regardais.
Club sandwich à quoi?
Il y avait de la salade et du thon.
Ah oui, donc tu vas vraiment observer.
Ah bah moi, oui, j'ai pas son.
Attention à ce que tu manges.
Attention à nourriture, oui, plus que moi.
Ah bah oui, largement,
ah
je
oui.
pense.
Ah non, je suis pas sûr.
Ah bah moi je passe mes journées à chercher tous les smash burgers, pizza.
Ah oui, et alors t'as trouvé?
Je commence à trouver, mais pour l'instant je suis déçu.
Ouais, parce que toi tu prends tes marques, ça fait deux jours que tu prends tes marques, etc. Et là tu vas rentrer dans ta vie un peu new-yorkaise dans les prochains jours.
Eh bah écoute, j'appelle tous nos auditeurs et auditrices s'ils connaissent des bonnes adresses à nous les communiquer.
On est friands. On est friands.
Par contre, attention des burgers, parce que si on est là pendant trois semaines.
Oui,
mais moi j'ai tout lâché, t'inquiète pas, c'est pas grave.
Elle a de la marge.
Complètement abandonné cette idée, donc c'est pas grave. Si je prends 10 kilos, le principal c'est qu'on se régale. Et on se régale avec vous, donc on va parler de foot aussi, parce que vous savez qu'on est là quand même pour la Coupe du Monde 2026 qui a été donc lancée hier, c'était évidemment au Mexique. Et aujourd'hui, place aux États-Unis, deuxième pays organisateur. Le Canada a déjà joué cet après-midi, il y a eu un match nul, un but partout face à la Bosnie. On en parlera un petit peu plus tard, mais la deuxième cérémonie d'ouverture vient de se terminer en direct de Los Angeles. Et on va parler évidemment de ce match entre les USA et le Paraguay. Les USA, donc pays organisateur après la Coupe du Monde 94, qui se retrouve opposé au Paraguay. On va tout de suite retrouver Valentin Jamin. Bonsoir Valentin.
Bonsoir à tous et à tous.
Salut Valentin.
Salut Valentin.
Salut.
Valentin, dans ces deux équipes, il y a évidemment beaucoup de joueurs qu'on connaît. Il y en a beaucoup qui jouent en Europe. Il y en a même qui jouent évidemment dans notre championnat de France. Est-ce que tu peux nous donner les compositions d'équipe? Quels sont les choix de Mauricio Pochettino? On va en parler en détail des USA dans quelques minutes, parce qu'on sait que Pochettino est très attendu et que pour l'instant, la ferveur autour des États-Unis n'est pas présente. Donc il faut réussir son entrée dans la compétition pour la
Tout
Team USA.
Tout à fait, il n'y a pas de grande surprise dans les compositions annoncées par la FIFA pour ce match d'ouverture donc pour les États-Unis à Los Angeles. Dans la cage des USA, Matt Fries, le gardien de New York City, la charnière avec Richards et donc Tim Ream dont Maxime parlait, 38 ans, l'ancien de Fulham, capitaine de cette sélection. À gauche de la défense, Robinson, à droite Freeman qui a signé cet hiver à Villarreal. Et à partir du milieu de terrain, cette équipe, il y a quand même du matériel, franchement. Tyler Adams, le joueur de Bournemouth associé à Malik Tillman qui joue au Bayer Leverkusen. Un tout petit peu plus haut, on aura McKenny, le joueur de la Juve, évidemment. Dans le couloir droit, Serginho Dest. Dans le couloir gauche, Pulisic, le joueur du Milan AC. Et en pointe, le monégasque Folarin Balogun qui a empilé les buts avec l'AS Monaco. Donc un milieu et une attaque qui joue dans les plus grands clubs européens. Du côté du Paraguay, la bonne surprise, c'est que Julio Enciso, voilà, paraguayenne, va commencer. Il y avait un gros doute, il s'est blessé à la cheville lors du dernier match, on l'attendait plutôt face à la Turquie. Il est titulaire en attaque, sinon pas de surprise. Orlando Gil va garder la cage, Gomez Alderete, le défenseur de Sunderland en charnière, à droite Caceres, à gauche Marcos Alonso, Bodabilla en récupérateur avec Andrés Cubas et Diogo Gomez qui joue à Brighton. Et donc Enciso et Almiron seront en soutien de Sanabria qui a été choisi pour animer l'attaque du Paraguay qui retrouve la Coupe du Monde pour la première fois depuis 16 ans.
Et oui, effectivement, 2010, c'était la dernière participation du Paraguay à un mondial. Ils avaient atteint les quarts de finale. Messieurs, il y a énormément de joueurs qu'on connaît, évidemment, dans ces deux nations, notamment les États-Unis. Et il vient d'en parler également, Valentin Enciso, qui a été un grand artisan de cette qualification pour la Coupe du Monde. Et le Paraguay attendait ça depuis longtemps. Est-ce que pour vous, il y a un favori ou c'est assez équilibré, parce que il y a des beaux noms du côté des USA, mais moi je trouve pas que ça joue super bien.
Ouais, après je les ai vus moi contre le Sénégal, ils m'avaient agréablement surpris, où ils les avaient battus. Il y a quand même un mouvement populaire qui reste raisonnable, qui est pas dingue, mais qui est quand même là. Moi je regardais quelques images avant d'arriver à l'antenne, et le stade sera quasi plein. Il y a un bon entraîneur, il y a des bons joueurs offensivement. Il peut avoir un élan intéressant avec Pulisic, avec Balogun et tous ceux que Valentin vient de citer. Le Paraguay je connais pas du tout, mais j'ai quand même le sentiment, en tout cas j'ai la vision, je peux voir une équipe des États-Unis favori, alors qu'hier, par exemple, quand on parlait de la Corée du Sud et de la République tchèque, j'étais un peu plus mitigé. Je trouvais ça beaucoup plus homogène. Là, j'ai l'impression quand même que les États-Unis à la maison vont faire le boulot.
Le Paraguay juste s'est qualifié en sixième position dans la zone Amérique du Sud, donc c'était parmi les dernières nations à se qualifier, et c'est déjà un événement d'être là, parce que même en conférence de presse il y a un joueur, en l'occurrence Diego Gomez, hier, qui a fondu en larmes en disant c'est déjà énorme de participer à la Coupe du Monde, etc. Donc on a l'impression que être ici déjà pour le Paraguay c'est très très grand, alors que les USA officiellement visent un gros parcours, c'est ce que dit Mauricio Pochettino.
Moi je rebondis un petit peu justement sur l'équipe des États-Unis que je connais bien. Quand tu regardes un petit peu leur ligne d'attaque, hein, même leur milieu de terrain, honnêtement, ils n'ont rien à envier aux grandes nations. Hein. Alors, grandes nations, peut-être pas, mais en tout cas aux nations européennes. J'en ai parlé un petit peu, moi hier. Alors, je me questionne par rapport à cette équipe, pour la simple et bonne raison que quand tu regardes un petit peu leurs résultats contre les grosses nations, évidemment, il y a le dernier match contre l'Allemagne, il me semble, contre le Portugal et contre la Belgique, ils ont perdu 5-2 et 2-0. Aujourd'hui, je me pose la question à quel point les Américains peuvent rivaliser justement avec les grandes nations, juste pour pouvoir faire, évidemment, un parcours intéressant dans cette Coupe du Monde. Alors, ils sont chez eux, il y a une ferveur malgré tout populaire. On la sent pas vraiment à New York actuellement.
Non, on la sent pas du tout, soyons honnêtes, les gars.
Parce qu'on est sûrement à New Jersey, et aussi parce que la NBA prend énormément de place actuellement. On le rappelle, hein, les Knicks qui mènent et qui sont sur le point d'être champions NBA, ça fait un certain temps que c'est pas arrivé. Enfin, tout ça pour te dire que c'est vrai que la ferveur aujourd'hui, footballistique, en tout cas soccer, comme on l'appelle ici, outre-Atlantique, elle se fait pas encore vraiment sentir. Après, j'ai bon espoir que si les Américains gagnent le match contre le Paraguay, finalement, ça va prendre.
Enfin,
après,
j'ai quand même le sentiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, Maxime, que en fait, les enjeux sont pas les mêmes pour les deux équipes, quoi. On a quand même les États-Unis qui reçoit cette Coupe du Monde, qui a envie de faire un coup, en tout cas un huitième, un quart de finale, et le Paraguay, je vais pas dire qu'ils viennent en visiteur, mais il y a pas un enjeu démesuré pour le Paraguay sur cette Coupe du Monde 2026.
Non, mais c'est plus le Paraguay de 98.
Oui, voilà, vous voulez, mais sûr, voilà, globalement, je pense que
qualitativement parlant, le Paraguay, oui.
Oui, et au-delà de la qualité, moi je me rappelle qu'en 2022, ils étaient quand même sur une pente ascendante, les États-Unis, où ils avaient fait match nul contre l'Angleterre, notamment en phase de poule, et ils ont été capables sur les dernières années, en tout cas, de faire bonne figure dans ces compétitions-là pour arriver prêt pour cette Coupe du Monde-là. J'ose espérer, en tout cas moi je serais très déçu, parce que je pense que les Américains vont être animés d'autres choses par rapport au Paraguay. Même si la Coupe du Monde ça reste une compétition spéciale, là il doit avoir un supplément d'âme chez les Américains normalement.
Et puis pour avoir parlé avec les joueurs, je sais qu'ils sont justement motivés à mettre le soccer, comme ils l'appellent ici, vraiment au centre de l'attention, parce qu'en plus on connaît exactement un peu l'aspect géopolitique. Il y a aussi une fierté nationale de bien représenter le pays par rapport à tout ce qui se passe, hein. On n'est pas sans savoir ce qui se passe à l'extérieur du pays, malheureusement, au niveau des guerres. Donc voilà, connaissant les joueurs, je sais qu'ils ont justement ce blason, ils ont envie de le porter haut et en étant très très fier. Et donc je ne serais pas surpris justement qu'il y a cette fierté nationale qui prenne le dessus. Moi j'ai parlé avec Malik Tillman, que je connais bien, j'ai joué avec son frère, et lui me disait que justement il se sent vraiment investi d'une mission, alors non pas uniquement sportive, mais uniquement, enfin vraiment plus globalement, c'est-à-dire de représenter le pays haut et fort dans cette Coupe du Monde.
C'est un 2026. Bon joueur, hein, Tillman. Moi je l'avais suivi notamment au PSV Eindhoven quand ils avaient été dans la poule du RC Lens. Bon là aujourd'hui il est au Bayer Leverkusen, mais c'est beau joueur.
Petit info, il est suivi par Manchester City.
Ah oui, voilà, ouais. D'accord, ok.
Donc on verra ce que ça va donner pour lui, mais très bon joueur.
En tout cas, même pour la Coupe du Monde, c'est une vitrine pour certains joueurs.
Ah oui, c'est bien sûr. On rappelle que les USA ont été sortis en huitième de finale face aux Pays-Bas lors du dernier mondial en 2022. Et que l'an dernier, il y avait eu cette défaite en finale de la Gold Cup face au Mexique qui n'était pas très bien passée. Et il y avait eu beaucoup de critiques à l'époque, Maxime, parce qu'ils voulaient justement gagner et se lancer vers cette Coupe du Monde. Et ça avait fait un petit peu jaser cette défaite.
Bah, c'est vrai que je le redis encore une fois, mais les résultats des États-Unis ne sont pas exceptionnels. Il y a cette Gold Cup, il y a cette Copa América où est-ce qu'ils ont été ridicules. Il y a l'arrivée de Mauricio Pochettino finalement qui n'a pas changé grand-chose. Il y en a certains, comme tu le disais hier, Karine, qu'il est venu pour prendre son chèque et il partira après la Coupe du Monde. Voilà, je pense que tout le monde joue gros sur cette compétition. Évidemment, il y a tous les joueurs qui ont envie de se montrer, les joueurs qui jouent en MLS, qui ont envie de partir en Europe, les joueurs qui jouent en Europe et qui ont peut-être aussi envie de s'affirmer dans leur club européen. Et puis il y a Mauricio Pochettino qui joue aussi un petit peu sa réputation. Donc non, il y a vraiment, c'est vraiment une compétition importante pour les États-Unis, comme je l'ai dit, d'un point de vue évidemment personnel pour les joueurs, mais surtout individuellement et collectivement en parlant, hein, parce qu'aujourd'hui voilà, c'est leur Coupe du Monde et c'est leur vitrine.
Ils sont dans une phase de poule avec l'Australie, le Paraguay, ça doit sortir. Oui. Ça doit sortir de la poule quoi.
Bah, ils vont sortir.
Sinon c'est un gros couac.
Ils vont sortir après, ouais. Jusqu'à où ils vont aller, Walid, c'est ça la question. Et il suffit qu'ils tombent sur une grosse équipe européenne, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et le passif montre qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas justement à passer le cap pour essayer de les battre.
Mais pour l'instant, effectivement, leur groupe n'est pas très relevé. Australie, États-Unis, Paraguay, Turquie. Valentin, un petit mot également sur la cérémonie d'ouverture. On rappelle que le premier acte, c'était évidemment hier, c'était au Mexique, une cérémonie magnifique. Il y avait une deuxième cérémonie aujourd'hui à Los Angeles. Qu'est-ce que ça a donné ? Moi, j'ai trouvé que c'était très court.
Oui, alors on avait annoncé 13 minutes, hein, donc ça a duré un quart d'heure, la cérémonie. Donc c'était la troisième et dernière, tu l'as dit, après le Mexique, après le Canada. Donc on a vu des shows de superstars, ça va vous parler, vous qui êtes des grands amateurs de musique. Donc Katy Perry, Future, Anita, Lisa, la chanteuse sud-africaine Tyla également. Donc ça s'est passé un petit peu en amont pour qu'on puisse derrière les joueurs laisser les joueurs s'échauffer. Mais on a essayé de sortir, j'allais dire, un petit peu du lourd de la musique internationale. Mais tu as raison, c'était express, mais c'était prévu, 13 minutes. Et autre info un petit peu sur l'organisation et les alentours, Donald Trump aurait pu vouloir assister au premier match de son pays dans la Coupe du Monde. A priori, il ne sera pas à Los Angeles pour le match ce soir.
Merci beaucoup, on revient te voir dans quelques minutes. On rappelle que le stade de Los Angeles est magnifique, 70 000 places, mais a priori on ne sera pas à guichet fermé, donc il y a encore du travail pour cet engouement lors du mondial. Et il faut évidemment que les États-Unis gagnent pour que la ferveur prenne un petit peu, parce que pour l'instant ce n'est pas encore le cas, alors que hier évidemment, notamment au Mexique et au stade Azteca, c'était absolument plein. Messieurs, on va parler des Bleus, vous le savez, les Bleus qui sont en préparation avant ce premier match face au Sénégal, ça sera mardi prochain au MetLife Stadium. Et on retrouve tout de suite Fabrice Hawkins qui vient d'arriver sur le sol américain. Salut Fabrice.
Salut Karine, salut les gars.
Salut Fabrice.
Fabrice, dis-nous tout, parce que l'équipe de France se cherche encore un petit peu concernant ce 11 de départ qui devra défier le Sénégal, une nation forte du continent africain. Et cet après-midi, on a vu tes informations, il y a deux places pour un seul homme, Doué Barcola. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu peux nous confirmer que du côté des Bleus, ben finalement, la confiance qui est maintenue depuis un petit moment envers Barcola ne devrait pas changer ?
Ouais, envers Désiré Doué qui a joué plutôt performant. En fait, il a été performant encore une fois contre l'Irlande du Nord. On a tous vu le match et c'est vrai que ces dernières heures, ces derniers jours, il y a certaines rumeurs qui ont un petit peu déplu, voire surpris le staff, qui explique que justement l'encadrement autour de Didier Deschamps et Didier Deschamps justement ne serait pas content de cette performance de Désiré Doué. Nous, on nous a vraiment expliqué que c'était absolument faux, qu'au contraire, il donnait pleine satisfaction et que donc qu'il allait donner des mots de tête à Didier Deschamps, parce qu'il faut choisir évidemment entre lui et Bradley Barcola, mais qu'il y avait une bonne concurrence, une concurrence saine entre Bradley Barcola et Désiré Doué, deux joueurs qui ont vraiment deux profils totalement différents, un très technique qui a un rapport au ballon aussi très particulier, c'est Désiré Doué, et puis l'autre qui prend les espaces, qui attaque la profondeur et qui a donc ce profil-là qui est assez rare finalement dans cette équipe de France où beaucoup de joueurs demandent dans les pieds. Bradley Barcola, lui, peut prendre la profondeur et c'est appréciable aussi. Donc on va voir l'attaque qui sera alignée par Didier Deschamps, mais c'est vrai qu'au sortir de ce dernier match de préparation contre l'Irlande du Nord, il y a un léger avantage pour Désiré Doué.
Mais même sur la dynamique, ce serait terrible de voir Désiré Doué sur le banc au profit de Bradley Barcola, que ce soit sur la lancée de ce qu'il a fait sur la fin de saison avec le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich et contre Arsenal, sur le match de l'Irlande du Nord, je peux même repartir en arrière avec le match contre la Colombie où avec l'équipe B Désiré Doué avait été décisif. Pour moi à gauche sur la dynamique, il y a pas photo entre les deux. Si c'est à part si c'est une histoire de profil, mais je pense que le Sénégal va pas laisser des espaces monstres à l'équipe de France. Bon, moi sincèrement, je serais sur le cul de voir Désiré Doué sur le banc.
Mais t'as raison, Walid. Ouais, c'est pour ça que le staff était très surpris en fait de voir ce qu'il
a senti. J'ai vu l'info de l'équipe
où on explique.
Non, mais ça me paraît.
C'est pas une info.
En gros,
on explique que Désiré Doué n'a pas donné satisfaction et presque qu'il est en ballotage défavorable pour la prochaine rencontre.
Ça me paraît tellement logique de voir Désiré Doué débuter par rapport à ce qu'a dit Walid et notamment par rapport à son dernier match. Pour moi, c'était un des meilleurs Français contre l'Irlande.
Après un mi-temps, c'est lui le meilleur. Et après, t'as Olise qui l'éclipse un peu sur la deuxième, mais c'est deux meilleurs par rapport à Dembélé et Mbappé.
Comme je le disais, c'est les deux meilleurs. Ouais. Alors c'est vrai que pour revenir aussi par rapport à ton analyse, Barcola, il a cette possibilité de vraiment prendre la profondeur. Donc quand tu vas, on va sûrement voir une équipe du Sénégal encore une fois à l'image de la Côte d'Ivoire qui va sûrement défendre très bas, qui vont attendre les Français pour pouvoir les contrer. Donc c'est vrai que d'avoir un Désiré Doué qui est en mesure de pouvoir jouer entre les lignes, en tout cas d'être très très bon dans les petits espaces. Barcola, c'est un genre de joueur que tu fais rentrer 30 minutes de la fin quand l'espace commence à être un peu plus important, quand il peut justement aller courir dans le dos de la défense sénégalaise. Donc ça me paraît tout à fait logique de voir Désiré Doué débuter, d'avoir un Barcola qui joue sur les 30 dernières minutes.
La seule nuance, ce serait d'avoir trop de joueurs pied-ballon qui demandent le ballon dans les pieds.
Tu vas en avoir besoin,
mais c'est la réalité, ça.
Ouais, ça c'est
une
ça,
problématique.
Ça, c'est vrai que c'est un problème et que Bradley mais Barcola. Non, mais même face à un bloc bas, il peut essayer d'étirer ou il peut essayer de.
Mais de quelle mesure t'étires un bloc bas
en tout cas de coller la ligne, alors que Désiré Doué, c'est pas un ailier qui colle la ligne.
Après,
mais
c'est le faire aussi.
Mais moi, je trouverais ça très, très dur. Très, très dur.
Et puis justement, dans les replis défensifs aussi, on se posait la question d'un déséquilibre des Français par rapport à ce quatuor offensif. C'est vrai que Désiré Doué dans les efforts défensifs, il est quand même pas avare d'efforts.
Et moi je trouve qu'il a la bonne mentalité parce que moi j'étais de ceux qui pensaient que sur la dynamique, sur la fin de saison, par rapport au Bayern Munich ou même par rapport à Arsenal, surtout face au Bayern Munich à l'aller et au retour, que Bradley Barcola pouvait démarrer à la place de Désiré Doué, notamment au retour où il y avait pas mal d'espace avec la blessure d'Hakimi. Et moi quand je vois la trajectoire des deux sur la fin de saison, je pense que Bradley Barcola ne s'est pas remis de sa blessure contractée contre Chelsea.
Très bonne première partie de saison, parce que
psychologiquement ça a été dur aussi. Parlais justement du fait qu'il était très bon avant sa blessure, de revenir et de voir que tout de suite Désiré Doué lui passe devant sur les matchs coup près. Psychologiquement, il faut l'encaisser aussi.
Maintenant, le foot, il y a une réalité sur la dynamique. Et Bradley Barcola, on peut dire ce qu'on veut, s'il est pas prêt ou s'il est pas à 100%, ou s'il y a meilleur que lui dans le magasin, faut mettre le meilleur élément. Et pour moi, c'est Désiré Doué actuellement. Il y a pas photo pour moi.
Et en plus de ça, il a une qualité supplémentaire, c'est qu'il peut même presque jouer milieu de terrain. Donc dans le cas où Didier Deschamps devrait faire un réajustement tactique, il peut quand même mettre Désiré Doué en numéro 8 en attendant justement la mi-temps et potentiellement faire entrer un milieu défensif à la place de Désiré Doué. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité à être polyvalent et je pense que c'est un plus pour lui.
Et puis la classique, c'est Doué titulaire et Barcola qui rentre à l'heure de jeu.
Oui. Même Doué, il a le pied chaud. On sait qu'il est capable aux 25 mètres de démarrer, de rapidement être explosif sur les premiers mètres pour pouvoir enchaîner. Et face à un bloc bas, notamment, c'est important d'avoir des joueurs capables de dégainer dans n'importe quelle situation. Donc pour moi, c'est un choix logique.
Fabrice, on sait qu'évidemment tous les joueurs sont focus sur la Coupe du Monde qui va débuter pour eux mardi prochain. Mais il y a aussi des intérêts par rapport en club. On sait que pour les deux joueurs, c'est pas la même tendance. Il y en a un qui pourrait prolonger, c'est plutôt Doué. Il y en a un qui pourrait partir, c'est plutôt Barcola. Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que ça les tracasse? Parce que la Coupe du Monde, c'est bien, mais il y a un avenir en club important. Et pour Barcola, l'avenir, il est un petit peu moins clair.
Ouais, déjà pour faire un lien sur le par rapport au débat précédent, faut dire que c'est vraiment deux contextes différents, équipe de France et Paris Saint-Germain, et que autant au Paris Saint-Germain, il y en a un qui est titulaire indiscutable sur les gros matchs notamment, c'est Désiré Doué, et l'autre est remplaçant, on le voit régulièrement avec donc Bradley Barcola. Autant en équipe de France, il a quand même beaucoup plus de crédit Bradley Barcola, et ce sera intéressant de voir comment cette concurrence est gérée, même si je remets
pas beaucoup plus de titularisation
d'ailleurs. Désiré Doué part en... Bien sûr, il est arrivé avant. Mais
bien sûr, 20 matchs en tout et 8 titus pour Barcola.
Ouais, par la dynamique, Désiré Doué reste à un léger temps d'avance par rapport à Bradley Barcola. Après, sur les situations contractuelles, Désiré Doué, pour l'instant, il n'y a pas de négociation. Ils vont vraiment commencer à négocier pour lui la saison prochaine, donc la saison qui arrive. Ça va être intéressant de suivre ça parce que je pense que ce sera un feuilleton aussi. Et pour Bradley Barcola, là, par contre, sur cette fenêtre, on va être dans le dur des négociations. Et je pense assez rapidement, après la Coupe du Monde, on va très vite savoir s'il est question de rester ou de de partir du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est pas vraiment clair. Il n'a pas donné vraiment sa position. Le club, on entend beaucoup de choses, mais pour vous dire, moi, ce qu'on m'explique, et des personnes très 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 bien informées au fait de ce qui se passe, il n'y a pas de décision entérinée. C'est-à-dire que on peut très bien le voir rester et prolonger, tout comme partir, même si, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas oublier qu'il était... Il s'est déjà posé des questions la saison passée, que Luis Enrique voulait absolument qu'il reste, qu'il l'a retenu, qu'il a fait la saison qu'il a faite, et qu'encore une fois, en finale de Ligue des Champions, il s'est retrouvé sur le banc de touche, et qu'il y aura forcément des questions à se poser du côté de Bradley Barcola, de savoir s'il est heureux, de savoir s'il a envie de rester au Paris Saint-Germain. Et s'il s'avère que c'est pas le cas, eh bien, le Paris Saint-Germain le vendra.
Ouais, on se posait la question justement, qu'est-ce qui pourrait aider le PSG à s'améliorer et encore justement à passer un échelon, si je peux dire ça. Et en l'occurrence, on parlait des remplaçants, et par rapport à Barcola, en fait, il faut aussi qu'il accepte. Est-ce qu'il a envie d'accepter d'être dans son rôle de doublure? Alors aussi, Walid l'a très dit.
C'est toute la question, Maxime. T'as raison.
C'est ça, en fait, c'est ça l'histoire. C'est parce que justement, on se posait la question de quel type de profil pour arriver au PSG, justement, pour ne pas casser cette dynamique. Et je pense qu'il faut des joueurs qui sont en mesure de vouloir rejoindre le PSG, mais aussi d'accepter le fait que, et en l'occurrence devant, hein, quand tu vois le trio offensif. Le fait que tu passes numéro 2 entre guillemets. Donc est-ce que Barcola a envie de se retrouver dans cette situation, lui qui a quand même un statut malgré tout en étant international français? Après aussi, on sait que dans le foot, la dynamique, elle est, tu vois, ça peut très vite changer. C'est Barcola, les 6 premiers mois au Paris Saint-Germain, il est énorme.
C'est un statut qui est quand même fragile. Moi, je dis attention à Bradley Barcola, parce que au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, il est dans un cocon, même s'il ne joue pas titulaire à tous les matchs. Il y a quand même une méritocratie. Quand il est meilleur que les autres, quand les autres sont moins bons que lui, il joue. Quand il est pas bon, il joue moins. Mais il a ses 25 matchs, 30 matchs dans la saison. C'est une équipe qui roule bien. C'est une équipe qui a une vraie mécanique. Parce que aller en première ligue avec 100 millions d'euros, dans le dos, aller Liverpool ou à Chelsea, mais... ou je sais pas où, et être le leader de l'attaque.
Ça les dérange pas. Ils peuvent mettre 150 millions d'euros sur le banc de touche.
Je parle pas de l'Angleterre. Pour moi, il a une vraie cote en Angleterre. Ça, c'est une réalité. Il y a pas de souci. De toute façon, on l'a vu cet été. Luis Enrique l'avait bloqué. Et je pense que tous les matchs qu'il a fait avec les Anglais cette saison, même l'année dernière, la cote est vu les sommes d'argent qu'il dépense pour des ailiers très très moyens à 60 à 70 millions d'euros. Je serais pas surpris qu'ils envoient une grosse sacoche sur Bradley Barcola. Mais le débat, Fabrice, c'est de se dire attention, tu peux aussi te mettre en danger en allant avec ce genre de transfert dans ces gros clubs où il y a une vraie lessiveuse, hein, où tous les ans, si ça fonctionne pas, on en prend un autre qui a aussi une adaptation au championnat, qui a une adaptation aussi à la nouvelle vie, et que là il est au Paris Saint-Germain, il est 3 ou 4 dans la hiérarchie, il a un profil où il a un sélectionneur, enfin un entraîneur qui l'aime énormément, et moi je dis attention, ça peut être aussi un jeu dangereux de vouloir partir du PSG.
Et pour aller plus loin, se mettre en danger en équipe nationale même. Alors, ça peut être plus facile en tout cas de partir sur cette intersaison parce qu'il n'y a pas de gros tournoi avant dans 2 ans. Mais c'est vrai qu'en effet, je suis d'accord avec toi, Walid. Prendre le risque de partir ça avec un dangereux statut qui n'est pas encore vraiment avéré, ça peut être très très dangereux.
Oui, mais son statut au PSG,
c'est un pari pour les deux. C'est un pari pour les deux. C'est-à-dire que c'est un pari pour le Paris Saint-Germain déjà de le laisser partir parce qu'il pourrait très bien dire t'as 2 ans de contrat, mon coco, on va te garder ici, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. C'est ce qu'il faisait il y a encore des années derrière. La politique, elle a changé. Aujourd'hui, il n'est pas question de retenir un joueur qui souhaite absolument partir. Donc si demain, et encore une fois, on met des hypothèses, des si, il n'y a absolument rien d'entériné, mais admettons qu'il souhaite partir et que le Paris Saint-Germain lui ouvre la porte, Paris devra recruter quelqu'un du même standing. C'est pas très facile de trouver aujourd'hui sur le marché des joueurs du même niveau que Bradley Barcola ou plus fort
que Walid,
qui vont accepter ce rôle-là.
Moi, je pense que c'est plus facile de trouver un joueur équivalent à Bradley Barcola du côté du PSG, même si c'est pas simple, qu'un Bradley Barcola qui retrouverait la santé footballistique qu'a le Paris Saint-Germain.
Pour moi, c'est un pari pour les deux. Et crois-moi, Walid, ce sera beaucoup plus compliqué que ce que tu penses, parce que sur le marché des joueurs comme Bradley Barcola, il y en a pas énormément.
Oui,
c'est un marché saturé parce que Arsenal cherche, Chelsea cherche, Liverpool veut un ailier, le Bayern veut un ailier, et tous ces clubs là, ils sont aussi attractifs, même si aujourd'hui le Paris Saint-Germain est très très attractif, mais c'est des clubs qui sont attractifs et qui peuvent garantir un peu plus que le Paris Saint-Germain une place dans le 11.
Tu peux aller prendre un Yann Diomandé,
tu peux prendre le petit Kroupi.
Ils ont un train d'avance quand même, d'autres arguments.
Oui. Après, moi, je serai le PSG. Je garderai Barcola. Je serai Barcola. Je resterai au PSG. Ouais, maintenant, après, si Bradley Barcola, il joue avec la Bon, j'allais dire une dinguerie, une vulgarité, mais s'il joue avec tout le monde au Paris Saint-Germain, il y a un moment, il faudra peut-être sévir et passer à autre chose, parce que moi, je trouve que le comportement.
Mais ils ont des bonnes relations, très honnêtement, les négos, elles se passent bien. Elles se passent bien. Et tu sais très bien, Walid, et vous le savez tous, hein, si jamais il s'avère qu'elles se passent. En gros, à partir du moment où il y aura un grain de sable dans la machine, tout le monde va être au courant.
En fait, la réalité, Fabrice, c'est que si les trois sont à 100%, Bradley Barcola, il s'assoit sur le banc et c'est logique, en fait. C'est logique.
Oui, mais tu sais que t'as jamais trois attaquants à 100%, Willy.
Oui, non, mais
la dynamique, c'est qu'aujourd'hui, Barcola, en restant au PSG, il va minimum avoir ses 25-30 matchs. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut être dans une équipe qui gagne, qui a le potentiel pour pouvoir gagner peut-être une troisième Champions League, ou alors se mettre en danger, comme tu l'as dit, dans un club de première ligue où il n'est pas assuré non plus de jouer?
Mais Bradley Barcola, il a un profil qui est unique au Paris Saint-Germain, dans cette gestion de la profondeur, dans cette répétition d'appels que ne fait pas Gvara, Doué ou même Ousmane Dembélé, où ils aiment bien le ballon dans les pieds. Donc ça, c'est très très important. Maintenant, Bradley Barcola, il a aussi un déficit de talent en équipe de France et au Paris Saint-Germain, où quand ces mecs-là ultra talentueux, qui ont plus de talent que Bradley Barcola, dès qu'ils sont à 100%, bah dans la hiérarchie, et bah on le voit bien là, on voit bien avec Doué les questions qu'on a. Et il faut que les mecs soient un peu en dessous et que Bradley Barcola soit à 120% pour qu'il démarre. C'est la réalité, elle est là.
Donc après, peut-être je trouve un peu dur sur Bradley Barcola. Techniquement, peut-être qu'il est moins doué que Désiré, qui porte bien son nom, mais
il a une palette moins globale, en fait. Beaucoup. Il a une palette moins globale quand même.
Ouais, mais il peut progresser. Il peut progresser.
Oui. Ah, par contre,
il a que 23 ans.
Si sur la finition, il est meilleur.
Ah bah s'il fait une Dembélé,
ça peut aller très vite. Évidemment. On a vu avec Ousmane Dembélé.
Ah, s'il fait une Dembélé, c'est top 3 meilleurs joueurs au monde. Ça, c'est une réalité.
Et on l'a vu en début de saison. Il est capable à un moment. Il faut juste qu'il trouve de la continuité, parce que quand il trouve cette précision devant le but.
Oui, mais à lui aussi de se faire violence, Fabrice, tous les matchs, il faut les jouer avec la même intensité, les rentrées aussi.
D'accord avec toi.
Faut pas traîner la jambe. Parce que moi, je veux bien le protéger, je veux bien dire qu'il a un super profil, mais il y a un moment, il faut pas nous trahir à chaque rentrée où il peut.
Trahir tout de suite les grands mots.
Excuse-moi, la rentrée qu'il fait contre le Bayern et celle contre Arsenal où il doit finir le jeu, où il a deux énormes occasions. Excuse-moi, un joueur du standing de Barcola, il doit finir. Pour qu'on n'ait pas ces débats-là, Karine, il doit finir.
Ouais, bah écoute, à 23 ans, il a encore le temps effectivement de progresser et il a une marge de progression. On continuera évidemment d'en parler. Donc on rappelle, Fabrice, que la tendance est que rien ne bouge finalement face au Sénégal et que Doué commence côté gauche et que Barcola donc potentiellement le remplace lors des changements.
Exactement.
En seconde période.
On va surveiller quand même l'heure de jeu. On va surveiller simplement William Saliba, qui s'est pas entraîné aujourd'hui. On nous dit que c'est une simple précaution. On va regarder ça attentivement et on donnera des nouvelles aussi demain. Et puis le reste ne devrait pas du tout changer par rapport à ce qu'on a vu contre l'Irlande du Nord.
Merci beaucoup, belle soirée à toi Fabrice. On reparlera des Bleus tout à l'heure avec la carte postale de l'équipe de France avec Valentin Jamin. Une petite information, Nicolas Pelletier nous l'envoie, vous le savez, il va assister à l'entrée en lice des États-Unis face au Paraguay, coup d'envoi dans une demi-heure. Eh bien, il y a quelqu'un qui vient de miser 1,8 million de dollars sur le fait que les États-Unis ne vont pas remporter leur match face au Paraguay.
C'est Drake qui a fait ça encore ?
Non, on ne sait pas l'identité de la personne, peut-être.
Quelqu'un qui a sûrement un pouvoir financier supérieur.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il a les moyens. Et le gain potentiel, c'est plus de 3,5 millions. Voilà. Donc,
je pense qu'il doit regarder le match attentivement.
En tout cas, c'est pas moi parce que j'ai que 1 million de moi sur le compte. Ouais.
Effectivement. Ouais. C'est pas toi parce que hier, tu as parié sur Corée du Sud.
Non, c'était l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud.
Il y a le Sud, mais c'était pas.
C'était pas le bon sud. T'as fait Mexique, Afrique du Sud.
J'ai parié sur le sud de la France.
Oui.
Le sud de la France.
T'avais parié sur le Mexique, Afrique du Sud et t'avais parié sur les deux équipes qui marquent. Oui, si il a été frileux. Et le buteur, ça tu l'avais.
Ouais, Quinones et Mexique, ouais.
Mais il a été frileux, Walid.
Et il a fait un.
Trahi par l'Afrique du Sud.
Voilà. Et t'as fait un cashback.
Cashback, c'est quoi un cashback? Non, un cash out.
Un cash out. C'est quoi le cashback? Ça existe?
Et toi, tu parles pas dans la pièce, etc. Et tu balances tout.
Ah non, mais t'observes
bien. Non, mais t'observes bien, etc. Non, mais c'est bien.
Bah oui, parce que j'étais très surprise que tu crois pas jusqu'au bout en tes rêves, tu vois.
Il fallait y aller. Enfin, à 5 contre 11, l'Afrique du Sud qui était à 5, qui était à 5 sur le terrain, qui a pris 6 cartons rouges, c'est vrai que là, j'y croyais un peu moins quand même, Karine, excuse-moi quand même.
Mais tu sais, ça aurait pu être finalement un 2-1, mais ça s'est fini en 2-0, et donc tu n'as pas eu les capacités financières de nous faire un petit pari à 1,8 million de dollars.
Pas parié à 1 million, non?
Non, c'était une petite très, très petite mise.
Voilà, on va attendre et on saura. Donc, on pense à ce monsieur en tout cas, 1,8 million de dollars. dollars, ouais, parier sur le fait que les États-Unis vont pas gagner face au Paraguay. Le gain potentiel 3,5 millions. Voilà une petite information de Nicolas Pelletier en direct de Los Angeles. C'est magnifique ça. Dans quelques instants, évidemment, on continue, on ensemble jusqu'à 5h du mat en direct sur RMC. On vous attend, à tout de suite.
RMC After Live, intégrale Coupe du Monde.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC en direct du New Jersey jusqu'à 5h du matin. On vous accompagne dans cette nuit américaine. Ils sont là à mes côtés, Walid Acherchour, Maxime Chano. Et nous avons deux invités à ma droite. Nous avons un homme qui régale tous les Français de New York. C'est Mike qui est propriétaire du Baratin, un magnifique restaurant dans West Village. Et il va nous raconter toutes les coulisses autour des stars du ballon rond, du tennis, etc. Bonsoir Mike.
Bonsoir.
Tout va bien ?
Tout va très bien.
Tu as effectivement eu le bonheur de recevoir énormément de joueurs français, mais pas que, parce que les Américains t'apprécient aussi. Et là, on peut le dire pour ceux qui nous regardent notamment en vidéo, que tu as le maillot de Timothy Weah, qui est un vrai New Yorkais, parce qu'il est né ici, Timothy Weah, joueur de l'Olympique de Marseille. Et c'est un habitué, donc, de ton adresse.
C'est un habitué du Baratin, oui. On appelle ça homegrown, c'est un mec de New York, et il vient souvent au Baratin.
Le fils de Georges Weah est bien habitué du Baratin.
Ça veut dire un peu Titi Parisien, quoi. C'est un mec d'ici, un mec de New York.
Voilà, exactement. Et nous avons le plaisir également d'avoir notre invité Elliot Prost, qui est l'entraîneur adjoint des Colorado Rapids, qui évolue actuellement en MLS. Un Français, encore un, qui est expatrié aux États-Unis. Bonsoir Elliot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Elliot.
Salut Elliot.
Elliot, on est ravis de t'avoir avec nous. On sait que tu es un habitué d'RMC. Tu nous écoutes très souvent en podcast, parce qu'avec le décalage horaire, évidemment, c'est compliqué de nous écouter en direct. On a eu le bonheur notamment de faire le podcast sur les États-Unis avec toi. On va parler justement de cette team USA qui va entrer en lice dans quelques minutes. On rappelle, coup d'envoi dans 26 minutes exactement du premier match pour les États-Unis. États-Unis-Paraguay. Elliot, première question. Est-ce que les USA sont dans l'obligation de sortir de ce groupe? Parce que c'est vrai que Walid l'a dit, le groupe est vraiment abordable, et pourtant, pour l'instant, ben voilà, l'engouement est vraiment très très moyen. Hein. On n'a pas l'impression que tout le pays est au taquet derrière la Team USA. Là, ils sont plus en mode NBA, ils sont plus focalisés sur d'autres sports. Pour l'instant, là, le soccer n'a pas encore pris pour cette Coupe du Monde 2026. Hein.
Ouais, moi je pense qu'ils sont dans l'obligation de sortir. Sur les dernières Coupes du Monde depuis 2006, ils sont toujours sortis du groupe. Il y a eu le petit faux pas en 2018 où ils n'ont pas été qualifiés, mais 2022 ils sont sortis du groupe avec Greg Berhalter. Et je pense que là, dans le format avec 48 équipes où les 8 meilleurs 3e arrivent à sortir, ça serait vraiment une catastrophe ou un cataclysme, comme il aime dire Walid, si les États-Unis sortaient pas de ce groupe.
Tu veux dire que ce serait cataclysmique de ne pas voir les États-Unis en 16e de finale?
Après, vu cette Coupe du Monde à 48, pour pas sortir des poules, faut presque le faire exprès, hein, ouais. J'ai presque envie de te dire.
Oui, oui, oui.
Donc non, les voir sortir de la poule, je pense que ça va passer. Après, on l'a dit un peu plus tôt, c'est comment les États-Unis vont réagir contre une grosse nation. Et c'est là qu'on se pose la question, Elliot. Hein. Tu l'as vu sur les matchs amicaux, on a vu contre l'Allemagne, on a vu contre la Belgique ou le Portugal notamment. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a quand même un plafond de verre qu'aujourd'hui les Américains, voilà, moi je me questionne pour savoir s'ils sont en mesure de pouvoir justement passer ce cap des grosses nations.
On rappelle également avec Mike, restaurateur au Baratin, qui connaît bien certains joueurs et qui suit les États-Unis. Mike, est-ce que tu as l'impression que les États-Unis ont grandi, ont progressé? Est-ce que Mauricio Pochettino, réellement, il a apporté quelque chose? Parce que nous, ça nous paraît pas très clair, hein, de France.
Est-ce qu'il a apporté quelque chose? Je sais pas. Moi personnellement, je l'aime pas comme entraîneur pour l'équipe de France.
Mais il est pas très aimé. Il est quand même beaucoup critiqué. On a l'impression ici aux États-Unis. Hein.
Il est très critiqué. Ouais. Il est pas.
Parce que je pense qu'on attendait vraiment énormément de lui. Hein. Les Américains, ils ont cette image justement d'un coach qui a quand même réussi en Europe, que ça soit au PSG, que ça soit à Chelsea.
Ou enfin après, qu'est-ce qu'il a gagné?
Non, mais en règle générale, quand t'arrives
finale avec Tottenham de Ligue des Champions. Voilà,
ouais. Je veux dire, quand t'arrives en tout cas aux États-Unis.
La déception au PSG.
Bien sûr. Non, mais attention, en Europe.
Finale avec le PSG quand même, en sortant le Bayern.
Mais en Europe, on a conscience de la vraie valeur de Pochettino en tant qu'entraîneur. Mais mets-toi à la place d'un Américain. T'as l'un des meilleurs entraîneurs, en tout cas un entraîneur qui a entraîné dans les plus grands clubs, qui se retrouve à entraîner ton équipe nationale. Pour eux, c'est un miracle.
Alors moi, j'étais très surpris de voir Pochettino arriver.
Pourquoi, à ton avis, Walid?
Les sous ?
Bah bien sûr.
Ah, il y a un gros contrat, bien sûr.
Je pense que c'est ça qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'en fait
il aurait pas pu prendre un gros contrat en première ligue ou dans un championnat.
En tout cas, quand tu as la possibilité,
la tranquillité aussi, parce que rôle de sélectionneur où tu es un peu en chaussons.
Mais c'est ça. Et puis surtout dans le pays organisateur, enfin je veux dire pour lui c'est du gagnant-gagnant.
Ouais, c'est du gagnant-gagnant, mais c'est la façon qu'il a commencé aussi. Les USA, l'équipe nationale, ils ont eu mal au début avec lui. Mais en plus, il peut donner ce chance pour voir si la confiance a marché, son programme.
Et en fait, il est jugé sur ses résultats. Ouais. C'est vrai que ses résultats sont très moyens. Donc c'est pour ça qu'il va jouer très très gros avec cette Coupe du Monde. En plus de ça, il a un peu le matos quand tu regardes. On l'a dit sur la ligne offensive, que ça soit le milieu de terrain, que ça soit les attaquants. Enfin, je veux dire, honnêtement, les Américains, ils ont pas envié grand chose à une équipe européenne, enfin une nation européenne. Après, t'as cette carence.
Après, il y a pas eu de nouveaux joueurs qui ont émergé globalement de 2022.
Bah, ou... si, peut-être Malik Tillman, je pense qu'il était là. Alors, je pense que c'est important. Mais
McKennie fait du bien aussi quand même.
McKennie, Pulisic. Il y a une grande différence avec Pulisic, c'est vrai que Pulisic, avant Pochettino, il avait tendance peut-être à se mettre très en avant. Et c'est vrai que Pochettino, je pense qu'il arrivait avec son expérience d'entraîneur des grands vestiaires, et il a tout de suite remis très, très justement Pulisic à sa place. Et on a le sentiment, en tout cas moi sur les matchs que j'ai vus, même si les résultats collectifs n'ont pas été exceptionnels, j'ai eu le sentiment de voir un Pulisic qui a été très altruiste, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps. Donc ça, je pense que c'est la bonne chose de la part de Pochettino. Quand tu arrives avec une aura comme il a, parce que justement on l'a dit par rapport à son expérience, j'imagine, en tout cas j'espère que ça va permettre justement à toute cette équipe là de se mettre au diapason, et en particulier Pulisic, parce qu'il a été critiqué pour ça dans le passé.
Nous sommes avec Elliott Prost, on le rappelle, c'est un Français entraîneur adjoint des Colorado Rapids, un club qui évolue en MLS. Elliott, toi, quel est le joueur qui pourrait vraiment sortir un petit peu du lot dans cette équipe Team USA? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs que nous on connaît parce qu'ils évoluent en Europe, on l'a dit, il y en a aussi qui évoluent même dans le championnat de France. Est-ce que toi, il y a un joueur qui pourrait être la sensation de ce mondial?
Moi, je pense que je garde un œil attentif sur les joueurs de MLS, forcément dans mon rôle professionnel. Mais il y a un joueur qui commence pas aujourd'hui, qui était titulaire contre le Sénégal, qui est pas titulaire ce soir, mais un joueur des Vancouver Whitecaps qui s'appelle Sébastien Berhalter, qui est le fils du coach qui est coaché en 2022, Greg Berhalter. Et moi, je pense que c'est vraiment un top joueur MLS, que peut-être à l'avenir on aura l'occasion de le voir en Europe. Il est pas titulaire ce soir, mais je pense que dans un groupe comme les États-Unis, qui est jeune, qui a faim, lui, je pense qu'il c'est un peu le... Il représente bien tout ça. Un jeune américain qui est un peu passé, qui a une histoire sympa. Il est né en Europe, mais il est revenu aux États-Unis par le biais de son père. Il a fait le foot universitaire, qui est un peu un parcours un peu différent de ce qu'on connaît en France avec le centre de formation, tout ça. Et aujourd'hui, il arrive dans ce groupe un peu par la petite porte, mais je le verrai bien au fil de la compétition grandir et devenir quelqu'un qui a de l'importance dans le groupe. Ouais, ça, c'est mon joueur que moi, je vais suivre.
En MLS, en tout cas, il est en train de faire. Enfin, il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. La particularité de cette équipe nationale, il faut aussi le dire, Elliott, c'est qu'il y a eu un gros problème là, il y a 4 ans au Qatar, où est-ce qu'en fait il y a eu un souci entre le sélectionneur qui s'appelait Greg Berhalter, qui est donc le père du joueur dont on parle actuellement, et un joueur qui s'appelle Giovanni Reina, qui est mon ancien coéquipier d'avoir à New York City, qui est l'ancien joueur de Dortmund et qui actuellement joue à Mönchengladbach. Et en fait, il y a eu une histoire comme Giovanni Reina ne jouait pas, son père qui était Claude Reina, je sais pas si vous connaissez l'ancien joueur des Glasgow Rangers et Manchester City. Exactement. Et en fait, la polémique a suivi derrière.
Les parents, la famille.
Exactement. En fait, il y a eu des lettres qui ont été envoyées anonymes. Bah,
c'était sombre.
Excuse-moi du terme.
C'était un mauvais épisode des Feux de l'Amour.
C'était très, très compliqué. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec les deux fils qui se retrouvent dans la même équipe nationale. Et donc, je me pose la question. Bon, j'espère en tout cas qu'ils ont enterré la hache de guerre. Ça, et c'est terminé. Le sélectionneur national Berhalter est donc sorti de l'équipe nationale. Il a été même radié. Donc, ça a été fort. Mais aujourd'hui, tu as son fils qui est là. Tu as le fils de Claudio Reina, Giovanni Reina, qui est là. Donc, t'imagines un petit peu l'ambiance.
Les deux sont sur le banc ce soir.
Ouais, les deux sont sur le banc. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette histoire qui a été un peu sombre côté américain. Et je pense qu'ils ont envie de mettre ça sur le côté pour essayer d'avoir des choses beaucoup plus positives.
Effectivement, parce que ça a fait beaucoup de bruit, mais c'était il y a 4 ans finalement.
Oui, mais t'as encore les deux protagonistes, entre guillemets. Je veux dire, t'as Giovanni Reina qui était quand même à la base du problème, parce que c'est lui qui s'est plaint à son père justement d'aller. Bon, peut-être, alors, ce qui s'est passé derrière, moi j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en tout cas, Giovanni Reina était vraiment l'acteur majeur de cette situation, de cette histoire. Et t'as le fils Berhalter qui, à la suite de ça, son père s'est fait renvoyer de l'équipe nationale. Qui se retrouvent dans la même équipe, dans le même groupe. On a vu les histoires, par exemple en Belgique, ce qui s'est passé avec De Bruyne et Courtois. Enfin, on sait très bien que dans un vestiaire, tous les joueurs ne sont pas amis, mais ça peut laisser des traces. Et donc, je m'interroge sur le fait d'avoir sélectionné les deux joueurs ensemble. Voilà. Bon, écoute.
Elliott, est-ce que ces problèmes extrasportifs qui ont effectivement explosé, qui ont été rendus sur la place publique en 2022 à l'issue de la Coupe du Monde, sont encore présents quand on parle de la Team USA ou plus du tout?
Non, moi je pense plus du tout. Forcément, Pochettino il est venu, il a apporté une dynamique différente. Je dis pas forcément une meilleure dynamique parce que depuis qu'il est arrivé, il y a eu des bons moments, des moins bons moments. Mais je pense que les États-Unis aujourd'hui, ils ouvrent un nouveau chapitre. Ils ont envie d'écrire une nouvelle histoire. Regarde, je sais pas si vous avez vu les images à Los Angeles. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le stade. Je pense qu'il y a de l'engouement aujourd'hui à Los Angeles et le résultat d'aujourd'hui, ça pourrait un peu changer, de créer une dynamique qui pourrait être super bien pour US Soccer. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans l'idée d'écrire une nouvelle page, d'essayer de profiter de ce moment. Si vous regardez ce qui se passe un petit peu avec les joueurs de la Coupe du Monde 94, donc tous les joueurs qui étaient dans la sélection américaine à ce moment-là, là aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de choses avec ces joueurs-là pour les mettre en avant, pour essayer de créer une histoire. Et je pense que les joueurs aujourd'hui dans la sélection américaine, ils ont envie, eux, maintenant, d'écrire leur histoire. Donc moi, j'ai hâte que le match il commence là dans 20 minutes et que ce joueur-là, il se mette en avant. Et ouais, moi, il y a un ou deux mois, j'étais un peu sceptique, mais là, je pense qu'il y a une énergie assez positive, malgré les résultats récents lors des matchs amicaux. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Comme Maxime l'a dit, il y a un bon groupe, il y a une poule assez abordable et il y a un format de Coupe du Monde qui peut les aider. Donc pourquoi pas? Et je pense qu'ils essayent de se concentrer vers l'avant et d'écrire une page sympa de l'histoire du foot ici.
Pour toi, il n'y a pas photo ce soir, les États-Unis sont favoris face au Paraguay?
Paraguay, c'est une équipe qui nous avait laissé en 2010 après un quart de finale avec Tata Martino, un entraîneur bien connu sur MLS qui avait gagné avec Atlanta. Aujourd'hui, ils font leur retour en Coupe du Monde 16 ans après. Ils jouent contre les États-Unis que les quatre dernières fois qu'ils sont joués, ils étaient toujours aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont toujours battus. Donc moi, je pense que le Paraguay, ça va pas être un match simple, mais les États-Unis, je pense qu'ils ont l'équipe. Je pense qu'il y aura une super ambiance à Los Angeles et je pense que ça peut passer, mais ça va pas être un match facile.
Pas un match facile, effectivement. C'est également ton sentiment, Mike, sur le fait que ça sera compliqué. On rappelle, hein, le Mexique, pays organisateur, a gagné 2-0. Le Canada s'est cassé les dents face à la Bosnie. Ils ont été ultra dominateurs, mais ils n'ont fait que match nul. Et il y a donc ce troisième pays hôte qui entre en lice, on le rappelle, dans moins d'un quart d'heure maintenant. Pour toi, les États-Unis sont favoris ou pas, Mike?
Ils sont favoris. Pour moi, il faut qu'ils sortent, ils jouent le feu direct. Il faut qu'ils marquent vite. Dans les 5, 10, 15 premières minutes. Autrement, le match va être serré. Ça peut être casse-couille après.
Enfin, Mike, qu'est-ce que c'est que ce propos?
Ça peut être compliqué.
La question, c'est de savoir combien de joueurs sont venus chez toi pour faire la fête.
Il est tard en France.
La question, Mike, c'est de savoir combien de joueurs de l'équipe nationale sont venus chez toi faire la fête. Parce que j'en ai vu quelques-uns quand même. Hein.
Dans l'équipe américaine?
Oui. Je sais de qui je parle, mais.
Il y en a quelques-uns.
Dont le gardien de but qui aime bien.
Et lui, c'est la clé de l'équipe américaine.
Matt Fries, Matt Fries, on en a parlé. Hein. Il était
pourquoi,
un petit
pourquoi,
peu.
Pourquoi
parce qu'il consomme beaucoup chez Mike.
Non, pas pour ça. Pour moi, toutes les équipes américaines qui ont eu des belles Coupes du Monde, on a eu un grand gardien. Tim Howard. Toi, t'as toujours un gardien qui sort. Et je pense que c'est la clé.
Quand tu vois leur défense, je pense que c'est vraiment lui le meilleur de cette ligne défensive. Et on a parlé justement du déséquilibre dans cette équipe américaine. Et je pense qu'Eliott va pouvoir confirmer avec moi. C'est vrai qu'il y a quand même énormément de talent devant, mais derrière, je pense notamment à Tim Ream, hein, qui a presque 39 ans, 38 ans, qui va avoir 39 ans, il me semble, en fin d'année, qui est revenu aux États-Unis en MLS du côté de Charlotte. Et c'est vrai que quand tu te rends compte que c'est ton leader d'attaque qui a 38 ans, je me pose des questions quant à la qualité de cette défense. Mais c'est vrai que, comme dit Mike aussi, on a un gardien, enfin en tout cas les États-Unis ont un gardien très très performant.
Ils ont mis du temps quand même à se.
Il a eu du mal. Il a eu du mal.
Quand même,
il a
eu du
mal.
Du
il a eu du mal. C'est vrai qu'il a fait un choix finalement de choisir
ton ancien coéquipier.
Fries, ouais, qui je te disais qui est spécial, très très gentil, mais qui a tendance à manger à toute heure de la nuit.
Enfin, c'est vrai que ça des joueurs qui mangent à toute heure de la nuit.
Non,
c'est pas
mais c'est embêtant quand tu veux te reposer que t'as un match le lendemain.
Après derrière ils ont quand même le Richards là qui a fait sa saison à Crystal Palace à côté de Lacroix et de Canvo sur certains matchs. Ils ont quand même gagné la Conference League. Ils ont une équipe quand même très première ligue. Ils ont une équipe athlétique, dynamique derrière, même si c'est un peu lourd et qui a encore certains joueurs vieillissants. Tu prends Robinson, la même chose, qui a fait des belles choses en première ligue.
Moi, je
pense que pour le Paraguay, en tout cas après pour passer, parce qu'on parle du match du soir. Si on doit se projeter sur la suite, bien évidemment qu'à un moment il y aura un plafond de verre. Mmh. Mais moi, je trouve que c'est quand même une équipe qui a les moyens pour être, on va dire, dans la troisième semaine de la Coupe du Monde.
Je pense
au moins en huitième. Moi, je pense.
Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'en huitième. Après, si tu veux mon avis, je pense qu'ils vont gagner ce soir contre le Paraguay. Hein. Même si le Paraguay reste une équipe redoutable quand tu regardes individuellement et même collectivement, les États-Unis sont devant. Maintenant, c'est vraiment la grande question sur contre les grosses nations. Voilà, mais on aura la réponse, comme tu l'as dit, Walid, sur la deuxième semaine.
Ce sera un système à 3 Elliott, ou ça sera à 4 avec
Sergio Dest. Défense à 5, et d'ailleurs, pour ce qu'il a dit, Maxime, je pense que. Ouais, c'est ça, Dest et Robinson en piston.
En piston, ouais.
Mais capitaine, c'est Tim Ream, mais je pense qu'aujourd'hui, à la Coupe du Monde, si tu veux jouer avec Tim Ream, t'es obligé de jouer à 5 derrière. Donc c'est un peu ça aussi.
Il court plus très vite, hein, notre pauvre Tim Ream.
À 4, c'est impossible. Donc je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a beaucoup de talent. La ligne d'attaque, c'est intéressant. Balogun, Pulisic, Tillman, Ouya qui peut sortir du banc, Pepi qui a fait des bons matchs de préparation. Donc je pense qu'il y a un talent, il y a un potentiel offensif intéressant. Maintenant, défensivement, Pochettino, il sait ce qu'il fait. Il va mettre une défense à 5. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont devoir faire le jeu. Mais je pense qu'on va avoir une équipe qui a des plus grosses équipes, qui a des plus grosses nations, qui va défendre assez bas et qui va utiliser le potentiel athlétique des joueurs pour contrer et jouer en transition. C'est comme ça que je vois un peu le scénario. Moi.
Merci beaucoup, Elliot, d'avoir été avec nous pour cet avant-match et pour l'entrée en lice des États-Unis. On rappelle Elliot Prost, qui est adjoint au Colorado Rapids, et la saison de MLS qui reprendra au mois de juillet. Dans quelques instants, vous allez vivre en direct les hymnes. Et ça, franchement, l'hymne américain dans le stade de Los Angeles, ça va être absolument magnifique. Actuellement, il y a Katy Perry qui est en train de chanter. Elle est déguisée en abat-jour. Qu'est-ce que c'est que cette robe, non? J'ai vu que tu avais fait une grimace.
Non, on sent une pointe de jalousie, Karine, non?
Pas sur cette robe, non, pardon. Non, je sais pas. C'est assez original.
C'est osé.
C'est osé.
C'est osé, voilà. Mourinho.
Oh non, c'est nul. Katy Perry, donc, bravo, qui chante actuellement sur la pelouse de Los Angeles pour cette cérémonie d'ouverture avec l'entrée en lice du troisième période. C'est à suivre sur RMC en ensemble et en direct jusqu'à 5h du matin. A tout de suite.
RMC, l'after foot. Intégrale Coupe du Monde.